RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est l'heure de prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. C'est l'heure de prendre la parole en direct au 32-16 pour vous exprimer avec les GG, avec les grandes gueules sur ce qui fait l'actualité de notre pays. On prend tous les jours avec vous le pouls de la société au 32-16 durant 3 heures. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Bonjour mon cher. De retour de vacances, tu as pris tes vacances ou pas encore ou...
Je ne sais pas vraiment moi-même. Voilà, je suis.
Tu t'es promené quand
mais
même.
Mais oui, mais je suis un peu toujours en vacances et en même temps, je travaille toujours un peu, tu vois.
En même temps, il est tellement pas.
Je ne déconnecte jamais.
La rentrée, elle est quand? La pré-rentrée déjà.
Oh, la pré-rentrée enseignante doit être le 31 août. Ce qui me déprime toujours. Je préférerais qu'on la décale d'un jour, mais bon.
Je préfère le 1er septembre.
Oui, voilà, comme ça, rentrée
c'est
élève le 2 septembre.
Dans le
voilà, mais visiblement, on n'a pas voulu m'accorder ça.
Elle est entre deux aussi, Joël Dagosséry, la coach de vie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Tu n'as pas repris tes activités non plus encore là pour le moment
si,
conseil.
Tout doucement. On reprend tranquillement.
Il y a des clients quand même en ce moment, ils sont déjà là.
C'est un peu compliqué là, c'est un peu calme, mais bon, on garde espoir. C'est ça être entrepreneur. Hein.
Et puis nous sommes avec Maître Sandrine Pégan qui est avocate. Bonjour Maître.
Hello guys. Alors, je reviens des États-Unis moi, voilà. C'est pour ça, ça y est.
De retour des États-Unis où tu as été épaté par ce que tu as vu.
Ah mais
un dynamisme,
sincèrement, la
innovation.
France a beaucoup à apprendre au niveau des Américains. Je veux dire, vraiment, c'est incroyable. On est dans le futur au State. C'est une société de service et on a beaucoup à apprendre des Américains. Mais vraiment, quand je vous le dis, c'est à tout point de vue.
Deux exemples.
Déjà, bon, on est dans le futur dans le sens où j'ai pris une voiture sans chauffeur, livraison, pareil avec un petit robot. Les gens sont d'une sympathie, sont d'une bienveillance. En revanche, bon, après tout ce qui est sac en plastique, etc. Quand tu vas faire tes courses, c'est un produit, un sac en plastique. Là, en revanche, bon, au niveau écolo,
tu payes tout. Et puis tu payes tout. Tout très cher en ce moment.
Et tout, en revanche, c'est très très cher. Mais la propreté, c'est juste très très apaisant. Propreté de la ville, propreté des gens, voilà, tout quoi. C'est vraiment.
Donc ça montre qu'on est déclassé.
Mais complètement.
Tu sais, je te propose qu'on va faire, on va en faire un podcast qu'on pourra
avec
retrouver sur l'appli RMC où tu vas nous raconter tout ce que tu as vu en détail, tout ce que tu as apprécié ou détesté.
Tu es effrayé.
Maître Sandrine Pégan, on va avoir besoin de ses lumières d'avocate parce qu'on va faire un petit sujet tout à l'heure sur l'affaire Epstein.
Oui.
Tu as vu qu'il y a deux plaintes en déni de justice contre la justice française. On reproche à la justice française de ne pas faire ce qu'il faut dans l'affaire Epstein. Est-ce que la France freine l'affaire Epstein? On en parlera
et
avec
je vais
vous.
Peut-être d'ailleurs en déposer une moi aussi parce que je défends Flora Coquerel qui a été citée
dans le dossier aussi. Donc on en parlera tout à l'heure avec Maître Pégan. On parlera d'immigration. Est-ce qu'on doit mettre en place des quotas en fonction des secteurs économiques? C'est la proposition de Gabriel Attal. On parlera aussi d'un second tour potentiellement RN-LFI. Ce serait un risque mortel pour le pays, un deuxième tour Rassemblement National, la France Insoumise. C'est François Bayrou qui le dit. Vous viendrez en parler avec nous au 32-16. Premier sujet de discussion, on va revenir sur les attaques au couteau. Pourquoi est-ce que je vous en reparle ce matin? Vous savez, hier, on s'était interrogé, est-ce que l'attaque au couteau de Toulouse, c'est terroriste ou pas? Et puis, vous avez vu, il y a eu aussi Épinal. Épinal, la frayeur dans les rues de cette ville des Vosges. Il y a un type avec un couteau qui fait plus de 20 centimètres. Et puis, il est là, il le tient dans la rue, comme ça, de manière erratique. Il regarde les passants, il menace. Finalement, il a été neutralisé grâce à un pompier et puis des passants. Les deux, que ce soit à Toulouse ou hier à Épinal, sont partis dans les unités psychiatriques puisqu'on les a présentés comme étant perturbés dans un état second. Ce qui est intéressant, c'est de lire les réactions sous les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la trouille. Est-ce que ça vous fout la trouille ou pas? Hier, je discutais avec des copains sur des groupes WhatsApp, il y en a qui me disaient, est-ce que tu vas en parler? Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je mets dans mon sac maintenant, avec tous ces types au comportement bizarre? Qu'est-ce que je mets dans mon sac? Je mets une gazeuse, qu'est-ce que je fais pour ma femme? En plus, ce qu'il me disait aussi, c'est pourquoi on n'a pas tiré? Pourquoi les policiers n'ont pas tiré? Pourquoi on les a pas, tel qu'il me l'a dit, pourquoi on les a pas butés? Est-ce que vous avez la trouille, 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules, de manière franche, Joël Dagosséry, est-ce que ça te met la trouille?
Alors, c'est pas une trouille, tu vois, je tremble pas quand je sors dans la rue, par contre, je suis en hyper-vigilance. Donc déjà, en tant que femme, avant, j'étais un peu en vigilance. Est-ce que t'as un mec qui te suit? Bon, ça, c'est un peu tard le soir quand tu rentres, des choses comme ça. Mais là, en fait, je considère que
presque tout le monde est susceptible d'avoir un couteau dans son sac. Un truc que je pensais absolument pas. Pour moi, avoir un couteau, c'était quasiment impossible. Et là, je n'ai plus de profilage, dans le sens où des fois tu regardes, ouais, il a une tête louche, ou tiens, il se comporte bizarre. Là, il y a même plus ce profilage. Je considère que chacun est susceptible d'être armé d'un couteau dans ce pays, soit parce que t'es dérangé psychologiquement, soit parce que t'es un agresseur, ou soit parce que tu penses que tu dois te défendre. Que tu es susceptible de devoir te défendre en pleine rue ou dans les transports. Donc, je suis en hypervigilance, c'est-à-dire que si je prends les transports, bizarrement, je me colle plus aux gens. En fait, je vais avoir une sorte de, tu sais, la distance de sécurité, si au cas où tu devrais t'échapper d'un côté ou d'un autre, je ne sais pas. C'est peut-être pas pertinent, hein, je te dis pas ça, mais je suis pas tranquille. Voilà, je suis pas tranquille, et c'est dommage en fait, parce que il y a même plus d'endroits où je me dis, là, tu peux être plus ou moins tranquille. Donc, c'est vraiment une hypervigilance.
Tous ces gens au comportement erratique, on en voit aujourd'hui de plus en plus, et qu'il n'y a pas un seul quartier qui soit épargné.
Complètement.
Tu les vois en centre-ville, tu peux les voir dans des grandes surfaces aujourd'hui.
Oui. Des gens qui errent dans les centres commerciaux, oui. Des gens qui... tu sens qu'ils sont déboussolés. Donc oui, je ne sais pas comment la police peut gérer autant de cas, comment elle peut être partout. Moi, je demanderais à ce qu'elle soit partout. Très clairement, parce que je l'ai vu pendant les JO. Pendant les JO, j'ai vu la différence quand la police est présente partout. Donc, c'était beaucoup plus sain, c'était beaucoup plus tranquille. Et d'ailleurs, même les personnes qui errent, je les voyais quasiment plus. Donc, un retour de la police sur le terrain.
Pas uniquement de la police d'intervention, de la police de patrouille.
Oui, de la police de patrouille. Je suis pour de l'humain dans les rues.
Et tu pourrais mettre quelque chose dans ton sac ou pas? Une gazeuse,
j'en avais une, fut un temps, après je l'ai enlevée, mais oui, pourquoi pas avoir une gazeuse, ouais.
Sandrine?
Disons que la répétition de faits violents incite à avoir de plus en plus peur. Mais en fait, finalement, je me dis que le problème, c'est pas d'avoir peur, le problème, c'est de s'habituer. Parce que ça devient tellement fréquent qu'aujourd'hui, on se dit que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et je suis obligée de faire le comparatif avec les États-Unis. Je suis rentrée il y a à peine un jour et demi. Et sincèrement, là-bas, je vous le dis, Joël, nous en tant que femmes, mais alors c'est tellement safe, c'est tellement sécure, dans le sens où tu rentres le soir.
C'est violent, hein, c'est pays à armes.
Il y a quatre fois plus, le taux d'homicide est quatre fois supérieur à celui de la France.
Mais alors, ce qui est étrange, bon, j'étais en Floride, ce qui est étrange, j'étais dans le nord de la Floride au départ, et puis ensuite j'étais à Miami. Ce qui est étrange, c'est qu'en effet, la criminalité, et même la délinquance, tout simplement, est plus accru là-bas, mais on ne sent pas ce sentiment d'insécurité. Alors qu'en France, c'est en permanence. À peine je suis rentrée, que le soir j'allais à mon parking, ben je me suis emmitouflée parce que je me suis dit, on ne sait jamais, si je croise quelqu'un et que je suis en short et que j'ai un petit débardeur, si vers 23h avec l'alcool et la chaleur, ça peut faire monter un peu les esprits, du coup j'ai quand même mis une veste et j'ai mis un pantalon. Donc en effet, je trouve que cette hypervigilance dont tu parles, Joël, elle est en permanence.
Tu pourrais mettre
ici.
Quelque chose dans ton sac, toi aussi, ou pas?
Je voudrais pas en arriver là, mais je pense pas.
Jean-Loup Bonamy.
Bon, je vais donner quelques statistiques américaines, justement, puisque j'ai vu qu'on était un peu dans le quart d'heure américain.
Dans les trois heures.
Oui, dans les trois heures américaines. ça sera le thème de cette émission, sous le sceau de la bannière étoilée. Eh bien, première statistique, c'est justement une statistique du FBI, et je pense qu'elle est aussi tout à fait valable en France, c'est que 80% des gens qui ont reçu un coup de couteau, donc enquête faite auprès des gens qui ont été blessés et qui ont survécu, 80% n'avaient pas vu le couteau avant d'être poignardé. Donc c'est généralement des attaques par surprise, d'où aussi ce que tu disais, Joël, sur la nécessité de la vigilance, parce que en fait, 4 fois sur 5, la personne n'a pas vu le couteau sorti et ne se rend compte qu'après, une fois qu'elle a été poignardée. Deuxièmement, également, c'est que dans les tests et les simulations qui ont été faites aux États-Unis, c'est que un policier qui a une arme à feu, qui a son arme à la ceinture, face à quelqu'un qui a un couteau, si son arme est à la ceinture, à moins de 7 mètres, il n'a pas le temps de dégainer son arme et de tirer. 7 mètres, c'est beaucoup. Pourtant, en 7 mètres, le gars avec le couteau va courir, et en fait, ça se parcourt très vite, et en 7 mètres, il va parcourir la distance plus vite que le policier n'aura le temps de dégainer, et il pourra poignarder le policier. Donc ça, c'est déjà des statistiques à bien avoir en tête sur la dangerosité du couteau. Ensuite, je constate qu'en effet, la France du coup de couteau se banalise, se généralise. Ça va d'affaires comme celle de Crépol dont on a reparlé récemment jusqu'au déséquilibré, entre guillemets, puisque c'est devenu le mot rituel qu'on sort à chaque fois, jusqu'au déséquilibré qui, comme là, descendent dans la rue et poignardent des gens au hasard. Et enfin, troisièmement, je vois cette espèce de débat. Est-ce que c'est un acte terroriste ou est-ce que c'est l'acte d'un déséquilibré? En fait, je ne vois pas pourquoi on oppose les deux. Un déséquilibré peut très bien, justement, s'engager pour une cause idéologique.
En tout cas, même sans cause idéologique, oui, tu sèmes la terreur.
Bah oui, tu sèmes littéralement la terreur. Littéralement du terrorisme. Et par ailleurs, ça a été théorisé aux États-Unis par des militants de l'ultra-droite suprémaciste terroriste, qui disait que le meilleur moyen justement d'échapper aux investigations de la police, c'était que de balancer en masse du contenu idéologique, et des gens que tu ne connais pas et qui sont un peu déséquilibrés s'en emparent et vont semer la terreur dans la rue. Ça a été repris par les islamistes, notamment un théoricien d'Al-Qaïda qui s'appelle Al-Souria, enfin qu'on appelle Al-Souria, c'est-à-dire le Syrien, littéralement, qui a vécu en Espagne et qui est l'un des théoriciens, justement, de ce qu'on appelle les loups solitaires, mais qui, en fait, sont complètement des terroristes. Tu balances du contenu idéologique, t'espères que des déséquilibrés vont s'en emparer et qui vont en effet semer pour toi la terreur dans les rues.
Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe à Épinal, qu'est-ce que tu te dis? J'interviens, j'essaie de faire quelque chose, parce que t'es, comme tu dis, t'es à quelques mètres, mais tu vois qu'il peut se précipiter sur une femme, sur un enfant. Tu regardes s'il y a quelque chose par terre, tu prends une chaise d'un restaurant. C'est ça aujourd'hui qu'on doit tous avoir en tête, tu vois. C'est pour ça ce que me disait mon ami hier. Il me disait, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets dans mon sac? Est-ce que je bouge? Est-ce que j'interviens? Pourquoi les policiers ne dégainent pas?
J'ai fait le choix, parce que je me suis posé la question plusieurs fois, de dire s'il y a quelque chose qui se passe devant moi, est-ce que tu vois, j'interviens, la réponse est non. Parce que justement, je te dis, je considère que tout le monde peut être armé d'un couteau. Donc c'est-à-dire que s'il y a une embrouille devant moi sans couteau, tu vois, deux gens qui s'embrouillent, est-ce que tu dis, mais écoutez, attendez, arrêtez, etc. Et t'as un mec qui sort un couteau parce que tu l'as interrompu et parce qu'il est pas content, tu vois. Donc moi, ma réponse, c'est non. Et si je donnais une consigne à ma fille, par exemple, ce serait aussi non. Alors c'est dur, parce que en fait on a besoin d'une société solidaire et quelque part de gens qui sont capables de stopper. Et j'aimerais que si ça m'arrive, on me stoppe. Mais je ne sais plus à qui j'ai affaire. Et autre chose, dans l'évolution de cette violence que je vois en France, qui me fait peur, et justement en rapport avec les États-Unis, la dernière fois, je me disais, je regardais un reportage sur les États-Unis, les tueries de masse. Je me dis, mais un jour, en fait, ça va arriver, les tueries de masse dans les écoles. Tu sais, là, on a des étudiants, enfin des élèves qui poignardent une surveillante ou un prof, etc. Et je me dis, mais est-ce qu'un jour, on va assister à ce à quoi nous on assistait à distance, des tueries de masse? Et je me dis, mais en fait, il faut vraiment que ça s'arrête avant qu'on arrive à ce point-là.
Mais tu vois, attends, dans la rue, là, le type d'Épinal qui, avec son couteau, là, qui d'un coup s'approche d'une femme, si moi, je suis derrière lui et que j'ai un objet urbain ou quoi que ce soit et que je lui fracasse la tête, je suis en état de légitime défense ou pas?
Bah oui, j'espère.
Après,
même si c'est pas moi qui suis menacé.
C'est compliqué la justice a besoin après d'avoir tous les éléments de contexte. Donc si en plus tu le frappes à l'arrière alors que tu l'as vu en train de menacer, tu vois, donc tu n'es pas toi en légitime défense.
Tu l'as vu,
Oui, mais tu vois, moi ce qui me dérange, Joël, c'est que avec ton si individualiste, en fait, ben ça pousse les gens à ne pas bouger.
Non, alors, je comprends.
La dernière fois, juste un exemple. J'étais dans le métro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques mois quand il y avait eu des femmes qui avaient été poignardées dans une rame, trois dans une rame sur la ligne 4 du métro. Ça vous parle ou pas? Et bon, bref. Et ben donc le lendemain, j'ai pris le métro et il y avait encore un fou qui était présent. Bon, il était alcoolisé. C'était un son domicile fixe, mais bon, voilà, il avait quelques réactions qui étaient assez perturbantes. Et j'ai commencé à ouvrir ma bouche. J'ai commencé à dire, bon, écoutez, monsieur, ça suffit. Et ben, tu vois pas qu'en fait, il y a une vieille dame qui m'a dit, chut, chut. Et je lui dis, mais pourquoi, madame? Elle me dit, parce qu'on sait jamais. Et en fait, le fait d'être dans la rame et moi d'avoir ouvert ma bouche et d'avoir essayé un peu de calmer les choses et d'être face à une femme qui me dit non, en fait, et ben, du coup, les gens ne voulaient pas intervenir. Mais il faut intervenir. Parce que je trouve que c'est le fait de pouvoir, à un moment donné, se manifester et qu'on soit plusieurs, ça va donner l'élan aux autres.
On a Jean-Claude qui veut réagir. Il est dans les Bouches-du-Rhône, loueur de matériel. Bonjour, de mariage. Bonjour, Jean-Claude.
Bonjour, bienvenue. Bonjour à toute l'équipe.
Est-ce que vous avez la trouille?
À la trouille, non, parce que j'ai déjà eu l'occasion, me suis retrouvé dans le cas où j'ai intervenu face à une attaque au couteau, 12 points de suture à la main, bon, passons, bref. Mais moi, ce qui, je regrette pas d'être intervenu, mais ce que je regrette, c'est la décision de justice après.
Pourquoi?
Ah, vous avez été traduit en justice, Jean-Claude?
Non, c'est parce que moi, après, j'ai porté plainte, on m'a conseillé de porter plainte. Moi, en fait, j'ai porté plainte pour qu'il soit, et ça s'est passé dans un stade de foot, pour qu'il soit interdit de stade, interdit d'être en relation avec des gens. Et résultat de course, il a eu 1 500 € de dommages et intérêts qu'il a jamais payé. Et le monsieur est coach de vie pour rentrer dans un stade de foot, fait, comme si rien n'était. Pourtant, au tribunal, il a reconnu qu'il avait vu rouge et qu'il était prêt à poignarder quelqu'un.
Donc, il n'a pas eu d'interdiction?
Non.
Et pour les 1 500 €, vous savez que vous avez un autre organisme qui s'appelle le SARVI, que vous pouvez actionner si, justement, l'auteur des faits qui a été reconnu coupable ne s'exécute pas spontanément. Le SARVI. Oh. Hein.
Ouais, non, mais là, je suis tellement écœuré par la justice que je ne veux pas faire de démarche. Quoi.
Mais monsieur, c'est rien. C'est, vous remplissez un formulaire, vous envoyez la décision de justice et vous allez recevoir les sommes. C'est quand même pas négligeable. Attention, parce que vous avez un délai de prescription. Ah,
je pense que c'est prescrit. C'est passé il y a 2-3 ans.
Non.
Je comprends Jean-Claude qui est dépité aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Mais là, les deux personnes dont on parle, elles vont partir en hôpital psychiatrique.
Oui, et là, elles peuvent être relâchées dans 6 mois.
Voilà. Et puis, dans quelques semaines, on va les retrouver dehors parce qu'il y aura un problème pour les garder. On ne saura pas forcément d'où elles viennent, qui elles sont. Elles seront de nouveau dans la rue. C'est pas dit qu'on les retrouve pas de nouveau dans une autre ville ensuite avec un couteau.
Oui, c'est un vrai ça.
C'est ça aujourd'hui qui crée le sentiment dont on parle d'insécurité et de peur.
Ce qui est intéressant, c'est que déjà je constate que il y a 15 jours, il y avait eu une attaque en plein Paris, je crois porte de Saint-Ouen, avec pareil quelqu'un qui avait poignardé au hasard des gens, des femmes. Dans la rue. Donc vraiment, ça se banalise. Et pourquoi est-ce que ça se banalise? Ben notre auditeur vient de nous apporter la réponse. C'est-à-dire que d'une part, t'as quelqu'un qui a poignardé notre auditeur. Il a eu 12 points de suture à la main. Bon, normalement, dans un pays normal, quand tu fais ça, quand tu taillades quelqu'un à la main qui a 12 points de suture, eh ben, tu vas 4 ans, 5 ans en prison et tu es définitivement pour toute ta vie interdit de stade une fois que tu as fini tes 5 ans de prison. Ça, c'est ce qui se passe dans un pays normal. Or là, il n'y a même pas d'interdiction de stade.
On n'emprisonne pas les fous.
C'est complètement délirant. Il n'y a pas un seul jour de prison. Il y a une amende qui est dérisoire de 1 500 € pour quand même quelque chose qui relève de la blessure grave, voire de la tentative de meurtre. Et en plus, ces 1 500 € dérisoires ne sont même pas payés. Donc en fait, moi, le gars, il a raison de porter un couteau puisque la justice lui donne raison. A priori, c'est pas du tout absurde de porter un couteau, puisqu'en fait, il y a aucune peur, il y a un sentiment d'impunité totale. Tu sais que si t'as un couteau sur toi et que t'es contrôlé avec, ben en fait, il t'arrivera rien. Et que même si tu t'en sers et que tu blesses quelqu'un, la douce soin de suture, ben en fait, il va quasiment rien t'arriver. Donc moi, je dis, les mecs qui font ça, ils ont d'une certaine façon, ils ont raison.
C'est l'impunité, quoi.
C'est l'impunité, parce que la justice leur donne raison. Et d'autre part, là, les problèmes, en effet, des gens extrêmement dangereux, au nom de la psychiatrie, d'une psychiatrie d'ailleurs qui, en France, n'a que très peu de moyens, oui. C'est aussi l'un des problèmes, et ben, comme la psychiatrie, c'est pas une peine, t'es jugé, t'es déclaré irresponsable, une fois qu'on estime à tort ou à raison que tu vas mieux, ou parce qu'il n'y a plus de moyens pour te garder, on te relâche dans la nature et tu peux recommencer.
Non mais la psychiatrie est en souffrance en France, ça c'est indéniable.
Ceux qui sont en souffrance, surtout les gens qui se retrouvent à Épinal,
voilà,
les
gens qui sont
dans la rue à Épinal face à un gars qui a un couteau avec une arme de 25
centimètres. Très bien, mais là on va quand même parler des soins des auteurs présumés. Donc il faut bien qu'à un moment donné, ces gens-là qui ont commis des faits, il faut bien qu'ils soient soignés pour éviter la récidive.
Tu rentres des États-Unis, qu'est-ce qui serait passé dans la rue aux États-Unis avec ça à ton avis?
Ah ben je pense qu'il serait déjà mort. Non mais un exemple tout bête et même moi là j'étais choquée au niveau des incivilités, ne serait-ce que déjà au niveau des incivilités, hein. Il y a un conducteur qui n'a pas laissé passer le piéton au passage piéton, la police l'a arrêté et il s'est fait interpeller et je sais pas après ce qui s'est passé, on n'avait pas le droit non plus d'être à côté, mais c'est juste pour vous dire qu'à partir du moment où tu ne laisses même pas passer un piéton sur un passage piéton, tu ne respectes pas le passage piéton, la police t'arrête. Déjà, donc rien que ça, à partir du moment où il y a ça, le reste, tu respectes tout.
Dans tous les cas, Toulouse et Épinal, là, ça vous fait réagir. J'ai Jean qui veut intervenir dans notre discussion, puisqu'il s'est fait agresser dans les transports en commun. Il a subi une opération et c'est ce qu'il va nous dire dans un instant. Il n'est plus du tout serein aujourd'hui quand il est en ville. On aura un policier aussi avec nous au 32-16. Épinal, Toulouse, des comportements erratiques, les fous. Alors parce qu'on doit, c'est ce qu'on dit, c'est même plus un délinquant, c'est même pas un terroriste. On présente comme des gens perturbés, en état second. Donc des fous avec des couteaux maintenant dans la rue. Est-ce que ça vous donne, ça vous fout la trouille? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on se protège? Au 32-16, que ça se passe? Il est 9h20, vous êtes sur RMC, RMC Story, avec les GG, avec les grandes gueules, avec Joël Dagosséry, avec Sandrine Pégan et avec Jean-Loup Bonamy.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules. C'est un sujet qui vous fait réagir, je le sais, au 32-16. On parle de ces vidéos que l'on a vues, l'attaque au couteau à Toulouse. Il y a ce qui s'est passé à Épinal aussi, à Épinal dans les Vosges, où on a vu un homme, le couteau était de taille, hein, errer dans les rues. Si vous êtes devant RMC Story, le canal 23 de la TNT, vous voyez les images, je crois que c'est les images d'Épinal que l'on voit justement. Il avait un couteau de 25 cm, c'est un pompier et des passants qui ont réussi à le maîtriser. Alors fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais ça nous interpelle de nouveau sur ce que l'on doit faire. Est-ce que ça nous fout la trouille? Parce que ce sont des gens qu'on présente comme des déséquilibrés, comme étant dans un état second. Est-ce que nous-mêmes aujourd'hui, on doit avoir une arme? Quand je dis une arme défensive, bien sûr, je pense pas à une arme létale, mais quelque chose pour se protéger ou pas. Est-ce que vous êtes serein? 32-16 pour en parler avec les GG. On a Jean qui est dans les Yvelines, donc qui voulait nous faire part de son témoignage. Bonjour Jean, bienvenue sur RMC. Est-ce que vous avez la trouille? Est-ce que vous êtes serein ou plus avec ce qui vous est arrivé, Jean? Dites-moi.
Bon, alors déjà bonjour à toutes les grandes gueules. Hein.
Bonjour.
Je suis très content de vous entendre tous les jours. Et écoutez, moi dans les transports en commun, je suis plus du tout serein parce que moi, en fait, mon agression a eu lieu sur le quai de la gare en allant au travail. Et il m'a d'abord essayé de me frapper au visage avec un poing américain. Malheureusement, il n'y est pas.
C'était quoi? C'était un fou? C'était quoi?
Alors je pense qu'il était déséquilibré parce que il s'en est pris à moi. Après, une fois que...
Sans raison,
parce qu'il m'avait bousculé. Je lui ai demandé de s'excuser parce qu'il m'avait mis un bon coup d'épaule, quand même. À l'époque, je faisais 120 kilos pour 1m70. J'ai reculé 3 pas. Donc, c'est que c'est un coup d'épaule qui était quand même plus que correct. Hein.
Ouais.
Et en fait, le mec en question, en fait, il m'aurait insulté et il serait parti. J'en serais resté là. Mais là, il est revenu vers moi, il a essayé de me mettre un coup de boule, et puis après des coups de poing avec un poing américain. Heureusement, j'ai pu me protéger, le visage. Hein, et puis après, il s'est éloigné, et quand j'ai voulu monter dans le train, c'est là qu'il est passé dans mon dos, il m'a frappé au niveau des jambes, et là, je me suis retrouvé avec un genou complètement bousillé. Et tout ça, ça a duré 43 secondes, ça a été mesuré par la police.
Il avait fixé son attention sur vous, quoi, en fait, c'est ça?
Ah bah oui, complètement.
Personne n'est intervenu, personne n'est venu vous aider?
Ah, le quai était bondé, il n'y a aucun passager qui n'est intervenu. Personne, que dalle.
Ça c'est pitoyable. Mais... ça c'est pitoyable qu'à chaque fois personne ne bouge, personne ne veuille se manifester pour
type
pouvoir.
Type un point américain. Il y a plusieurs,
on le maîtrise et puis voilà.
Je trouve que c'est un peu normal que les gens ne bougent pas parce qu'il y a l'effet de surprise, il y a la sidération en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs
après,
l'auditeur l'a dit, ça a duré 43 secondes. C'est très rapide, très violent. Ah. Il a un énorme avantage du fait de la surprise.
Allez-y Jean, pardon.
C'est aussi pour ça que les gens bougent pas,
c'est
la surprise.
Ce qui est complètement taré, c'est que derrière, quand j'ai été recueilli par les agents de la sûreté ferroviaire, qui ont d'ailleurs été absolument formidables. Je tiens à faire une petite parenthèse pour dire que les agents de la sûreté ferroviaire, comme la police, dans cette histoire, ont été absolument exemplaires. Ils ont vraiment fait du super boulot. Et par contre, je reviendrai après dessus, c'est là où je suis vraiment très déçu, c'est par la justice. Parce que là, quand j'aurais expliqué aux agents de la sûreté ferroviaire ce qui s'était passé, le mec qui était resté sur place à emmerder d'autres personnes, et quand ils sont allés le trouver, c'est parti en bagarre et il y a quand même deux agents de la SNCF qui ont été blessés.
Et donc alors pourquoi vous dites, Jean, que vous avez été déçu par la justice? Parce que derrière, il n'y a pas eu de comparution?
Derrière, en fait, si, il a été condamné. Pour avoir agressé des agents de la SNCF, pour m'avoir agressé moi, pour avoir aussi, il a aussi agressé son avocate, il a foutu le bordel dans le tribunal pendant qu'il se faisait juger. Il a pris au total 2 ans.
Avec sursis ou ferme?
Et 2 ans de prison ferme.
Monsieur,
Après, par contre, là où j'ai été, tu ne les as pas fait.
Si, deux ans, tu y vas. Il y a eu un mandat de dépôt qui a été décerné.
Là-dessus, il les a fait, ça c'est vrai.
Mais du coup, aujourd'hui, vous vivez comment? Vous êtes inquiet au quotidien ou pas?
Moi, dans les transports, je ne suis plus du tout serein. Moi, je ne suis absolument plus serein dans les transports. Parce qu'avant cette agression, souvent je me mettais sur YouTube pour regarder des vidéos, des reportages, parce que j'adore ça. Ça me permettait de me détendre. Mmh. Là, maintenant, je peux même plus rien regarder. Je suis constamment...
sur le qui-vive.
Alors
attendez, Jean, parce que ça fait réagir Joël.
Non, parce
Joël.
Qu'en fait, moi, j'ai pas envie qu'on culpabilise les gens parce qu'ils peuvent pas intervenir, qu'ils ont pas le temps, ou qu'ils sont sidérés, ou même qu'ils ont peur. Il faut pas oublier dans la société dans laquelle on a été éduqué, on a été éduqué dans une société ultra sécurisée, avec beaucoup d'impôts qui sont pris en nous expliquant que la police est là, etc. On n'a pas été éduqué dans une société où on nous a dit vous devrez vous défendre, faites attention. Par exemple, on sait que en Israël, à cause des attentats au couteau par certains Palestiniens, la société, les gens ont grandi avec l'idée qu'ils devraient,
ils étaient en danger.
Voilà, qu'ils étaient en danger.
Se défendre.
Nous, c'est pas le cas. Donc soit on nous prévient et on nous dit maintenant, on n'a plus les moyens de vous protéger, on change de société, mettez-vous au goût du jour, allez faire du Krav Maga ou allez apprendre à désarmer un passant avec un couteau.
Ou mettez là, quelque chose en votre poche.
Voilà, exactement. Et alors, c'est autre chose et moi je suis d'accord. Mais là, aujourd'hui, en l'état, on n'a pas été préparé à ce type de société.
Donc tu as
je
besoin qu'on te dise, alors allez-y,
non,
allez défendre votre prochain.
C'est pas que j'ai besoin, Joël. C'est que j'ai pas envie qu'on me culpabilise. Si je suis plus en capacité d'encaisser toute cette violence et si j'ai peur pour ma vie, désolée d'être en mode survie, quand tu vas à l'hôpital et que t'as des gens qui errent à l'hôpital et qui agressent les surveillants ou les personnes qui accueillent les réceptionnistes à l'hôpital, désolée d'avoir peur.
Ou dans les centres commerciaux.
Exactement. Que, ouais. Quand tu vas dans le métro et que t'as une partie... Moi, j'ai grandi, par exemple, dans le 93 et je vais prendre la ligne 12. T'as une partie du quai qui est monopolisée par les gens qui fument du crack. D'accord, et qui peuvent devenir violents à tout moment. Mmh. Donc, tu apprends à te faire petit et à occuper un petit espace où tu te dis là c'est mon espace parce que tout l'espace, tout le reste de l'espace est occupé par les fumeurs de crack. La police le sait bien, ça ne se fait rien. Tu vas à Stalingrad, balade-toi à Stalingrad le dimanche sur le quai. Tu vas voir les gens
qui sont là.
Ils vendent de la drogue tranquillement.
Enfin, je veux dire,
tu vis dans un monde où en fait
tu n'es plus en sécurité.
Voilà, et où tu regardes à droite, à gauche.
Et c'est pas un sentiment.
Il y a pas
ce que
un
tu dis.
Policier. Mais oui, il y a regarde. Pas un policier.
Oui, mais tu dis que
donc moi, je suis
on
désolée.
A été éduqué justement en se disant que la police va nous aider, va nous protéger.
Oui,
mais donc
oui.
Là, tu vois bien que manifestement, dans les faits, c'est pas le cas.
Non.
Donc, n'attendons pas à chaque fois de se substituer.
Je dis pas qu'il faut attendre. Je dis que si tu es sidéré,
faut pas se substituer à la police.
Si tu es sidéré et que tu as peur pour ta vie, il y a pas traité de trouillard ou
mais non, moi je suis désolée. Moi je dis qu'il faut à un moment donné, il faut bouger. Il faut aussi aider les uns et les autres. Il faut se protéger nous-mêmes parce que la police est défaillante. C'est malheureusement
là. À ce moment-là, tu ne prends pas 57% de mon PIB. Si la police est défaillante, tu me rends 20% au moins. Et je sais que je dois me débrouiller par moi-même. Non, je suis désolée. Moi, je peux pas accepter ça. Et je vais pas. J'ai pas envie que les politiques qui nous écoutent m'écoutent dire oui, on va se débrouiller par nous-mêmes et qu'ils continuent à dormir sur leur petit laurier. Désolée, c'est non.
Non, mais bon, en alors, attendant, attends, on peut pas laisser faire les choses.
Notre ami Abdoulaye Kanté, policier, qui nous a envoyé un message et qui voulait réagir, qui était avec nous. Bonjour Abdoulaye.
Ouais, bonjour à tous.
Bonjour. Qu'est-ce que tu en dis de ces attaques au couteau? T'as entendu le coup de gueule de Joël? Qu'est-ce que il y a pas assez de policiers? C'est nous qui devons réagir.
Avec toute l'amitié que je porte à Joël et tous ceux qui sont sur le plateau, je pense que il faut aussi peut-être un peu nuancer parce que il y a ceux qui crient qu'il y a pas assez de policiers et d'autres qui disent que non, il y a trop de policiers et que la police tue. Là, on va être très concret. Aujourd'hui, si on doit parler du sujet, le couteau est l'une des armes les plus faciles à se procurer. C'est ça en fait. Aujourd'hui, les policiers, c'est pour ça que je militais beaucoup pour l'armement des policiers municipaux, par exemple, parce que ce sont eux les premiers intervenants. Mais encore une fois, pour revenir à ce que disait votre avocate, évidemment, il ne faut pas jouer les héros. Il ne faut pas jouer les héros parce que la première chose qu'ils doivent faire, c'est appeler, faire le 17 et se mettre à l'abri et justement attendre les secours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a aussi face aussi à un problème de santé mentale. On a énormément de personnes en errance qui sont avec des couteaux. Qui, comme ça, erre dans les rues. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier réflexe, évidemment, c'est pas aller à la confrontation. Même nous, en tant que policiers, on doit prendre toutes les précautions nécessaires pour neutraliser un individu.
Il faut pas que les gens... D'accord, mais neutraliser, ça veut dire quoi, Abdoulaye? Parce que là, quand il y a un type avec moi, tu vois, j'ai même été étonné que les policiers de Toulouse, les policiers municipaux n'aient pas sorti leur arme. Hein. C'est tout à leur honneur.
Une très belle maîtrise de leur part, hein, oui,
je suis
sûr.
Oui, mais bon, non, mais encore, je vais aussi féliciter parce qu'il y avait le collègue qui était un seul homme avec deux femmes et les femmes, franchement, ont vraiment une très bonne réaction et sont intervenues. Parce que je vois sur les réseaux sociaux que certains disent oui, mais bon, il y avait des femmes, etc. Je dois leur tirer un gros chapeau à ces collègues de la police municipale de Toulouse, notamment avec des femmes qui ont réussi à maîtriser maîtriser un individu qui était armé d'un couteau. Mais au-delà de ça, la problématique, c'est quoi? C'est que quand tu fais face à un individu qui est armé d'un couteau, ben oui, il faut le neutraliser. Peu importe la manière, mais il faut le neutraliser. Moi, je te parle du côté des forces de l'ordre. Après, quand il s'agit de la population, oui, Joël, je suis d'accord avec toi. Bien évidemment, tu n'as pas envie d'aller à la confrontation. Il faut se mettre à l'abri et appeler les secours. On est à Paris, il y a énormément de policiers dans les rames de métro. Il y a des caméras de vidéosurveillance qui peuvent réagir en moins de 5 minutes.
Oui, d'accord, tu dis il faut courir et se mettre à l'abri. Quand tu vois ce qui se passe à Épinal, toi, tu peux courir. Tu te mets à l'abri, mais le type, il continue d'avancer. Et moi, je sais pas, j'aurais un sentiment de culpabilité de me dire, je me suis barré, il y a pas de policier, le type, il a avancé, et il a planté quelqu'un. Tu comprends, Abdoulaye?
Oui, je comprends, mais il faut aussi comprendre aussi que on pourra pas mettre un policier tous les 10 mètres. Tu vois ce que je veux dire? L'époque des JO, tout le monde aimerait bien que ça soit comme ça. On aimerait bien avoir un policier comme ça qui soit partout. Moi aussi, je milite pour ça, qu'il y ait de la présence humaine, vraiment, qui puisse être partout. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que il y a un problème de santé mentale qu'il faut régler, mais aussi il faut que les policiers primo intervenants, notamment la police municipale, etc., aient les outils nécessaires pour pouvoir intervenir rapidement. D'accord. Et c'est un appel que je fais pour que si on veut protéger la population, donnons les moyens à ceux qui doivent nous protéger et derrière ayons les bons réflexes pour se protéger.
Merci Abdoulaye d'avoir été avec nous. On a Olivier qui nous appelle de Savoie. Il est maçon. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Inquiet ou pas? Vous faites partie de ceux qui peuvent avoir la trouille aujourd'hui ou pas?
Alors pas du tout, non, je suis pas inquiet pour moi, je suis inquiet pour mes enfants. Quand je vois un petit peu ce qui se passe, puis quand j'entends surtout ce qui se dit sur le plateau, là, je suis interloqué, médusé. Bah en fait, je trouve que le problème, j'ai l'impression qu'on fait fausse route depuis le début. Je pense que les gens qui attaquent au couteau, bon, c'est pas d'hier, malheureusement. Mais le problème de base, pour moi, j'ai un discours qui est vraiment dommage, parce que je vais être très extrême, mais en fait, je pense que c'est la police. La police, aujourd'hui, n'a plus aucun pouvoir.
Elle a agi à Toulouse, la police, là. Elle l'a arrêté.
Ouais, quand on prenait tout à l'heure l'exemple de votre collègue qui était aux États-Unis en vacances. Alors, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, une personne qui va sortir un couteau de 1 cm devant deux policiers, les policiers vont sortir leur arme, ils vont le tirer dessus, ça va être réglé.
Ah oui, ça c'est évident.
Ça va être réglé. En Après France, sommation. Si on faisait pareil, alors je dis pas qu'il faut tuer tout le monde. Mais
non, quand même, merci.
Donné,
non, mais c'est réglementé, il y a une sommation, effectivement, il y a un tir de sommation. On demande d'abord à la personne de lâcher son couteau, de se coucher,
de se rendre.
Et si à ce moment-là, il continue d'avancer vers le policier avec son couteau, c'est là où il doit faire, où il peut faire usage de son arme, Olivier. C'est comme ça que ça se passe.
Bien sûr. Parce que il y a quand même une chose aussi qui me choque un peu quand on parle de santé mentale. Alors oui, effectivement, la santé mentale, c'est important, mais. Quand vous avez, on va prendre un exemple, vous avez une personne qui sort un couteau de 20 cm dans la rue devant trois personnes, comme ça. Et que les policiers, policiers ou pas d'ailleurs, le policier va lui tirer dessus. Il va lui tirer dans la jambe, par exemple. Mm-hmm. Et la personne, on va dire, elle est pas bien dans la tête, elle est malade, effectivement. Il y a des gens qui sont malades.
C'est ce qu'on a vu à Toulouse,
Olivier, c'est une réalité. Non,
c'est une réalité.
Oui, mais c'est sûr que c'est une réalité, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est le plus important de sauver la personne qui est malade mentalement
ou de protéger la population?
Les deux, non mais parce que là, la police, elle se rattrape toute l'incurie de la société. Enfin, il y a un moment quand on constate des problèmes mentaux, des gens qui ont des problèmes mentaux, qui se baladent dans les rues. On a tous grandi ici et c'était pas autant présent, ou alors je faisais pas attention, mais c'était pas autant présent. Là, c'est quasiment à chaque coin de rue. Il y a un moment, il faut quand même se poser la question des moyens sur la santé psychiatrique.
Et c'est autre chose.
Voilà. On peut pas tout régler par la répression. Nous, la protection, c'est pas que la répression. La protection, c'est l'anticipation, c'est de la prévention, c'est des moyens pour justement ne pas arriver à ce que la police gère.
C'est la détection.
Tous les problèmes de la société.
C'est que si tu vois une personne qui a un comportement anormal, erratique, et on les voit dans le métro et que tu appelles, on vient, on va les chercher, on discute avec eux. S'il ne veut pas partir, s'il ne veut pas s'en aller, tu peux pas l'emmener de force aussi.
Ça fait partie des lois.
On peut pas l'emmener de force. Et donc la personne, elle reste là, à pousser ses cris, à boire, éventuellement à jeter des bouteilles, des canettes, comme j'ai vu juste avant de partir en vacances dans une station de métro. Le type y jetait des bouteilles comme ça et des canettes. Qu'est-ce que tu fais?
Non, là il peut être arrêté.
Là c'est un vrai danger. Oui, on va le prendre, on va l'emmener.
Voilà,
il va rester
2 heures, 3 heures.
Oui,
voilà.
Il va être cellule de dégrisement où il va être 24 heures dans un foyer.
On espère que ça le calme.
Il va en partir et on va le retrouver de nouveau dans une autre station de métro à ce moment-là, quoi.
Non mais moi je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Joël a expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai moi-même fait l'expérience volontairement, justement par exemple, d'aller me balader à Stalingrad pour faire de la sociologie du quotidien. Et ben, en effet, je ne peux que confirmer la description apocalyptique que Joël fait de ce charmant quartier, de cette charmante station de métro et de ses environs. D'ailleurs, je me souviens qu'en 2004, tu vois, c'est quand même pas si récent, il y a 22 ans, j'avais déjà vu un reportage sur les pères de Stalingrad. C'était une association qui essayait de lutter, qui avait été fondée en 2002 et qui essayait de lutter contre le trafic de crack dans le quartier. Tu vois qu'en 24 ans, l'État a été incapable de prendre à bras-le-corps le problème et de le régler. C'est quand même hallucinant. Donc il y a une démission en fait de la puissance publique sur ce sujet. Voilà, c'est ça le.
Bah oui,
le
mais bon, quand problème. Quand et tu vois le maire de Seine-Saint-Denis là, Monsieur Bali Bagayoko, qui justement ne veut pas que sa police municipale soit armée. Ouais. Donc tu vois, il y aura toujours des zones de non-droit.
Non, mais c'est... là, Seine-Saint-Denis, c'est en plein Paris. Et donc moi, une idée un peu plus radical, mais je pense que vraiment tous ceux qui présentent des troubles psychiatriques manifestes et qui errent sur la voie publique, souvent en plus derrière avec des problèmes de toxicomanie, je pense qu'on devrait les ramasser, les répartir en deux groupes, ceux qui sont français, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, on les expulse parce qu'on n'a pas à accueillir tous les malades mentaux et à être l'asile psychiatrique du monde entier. Donc on les expulse, on les renvoie vers leur pays d'origine. Et ceux qui sont français, que donc malheureusement on ne peut pas expulser puisqu'ils sont français, eh bien, on les enferme déjà. C'est la priorité. La priorité, c'est de protéger la société. Alors, on verra après pour le traitement. Je souhaite que ces personnes soient soignées ou aidées. Mais la priorité, c'est leur enfermement et de les faire sortir des rues.
Mais tous les déséquilibrés ne sont pas dangereux. Là, ça c'est vraiment quelque chose à marteler. Tous les déséquilibrés ne sont pas dangereux. Donc, ce ne sont pas forcément des gens qui vont menacer
dans la rue. Moi, je pense qu'il faut les ramasser prioritairement pour protéger la société.
Attaque au couteau à Épinal et à Toulouse. Est-ce que ça vous fout la trouille ou pas? On en a discuté. Merci à tous d'avoir été avec nous au 32-16. On va regarder la petite consultation sur Internet. Est-ce que ça vous fout la trouille? C'est un oui à 65,4%. Dans un instant, le on s'en fout pas, reste avec les GG en direct sur RMC, RMC Story, il est 10h moins 20. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Sandrine Pégan, avocate, Joël Dagosséry, coach de vie. Nous sommes avec le professeur de philosophie et normalien, Jean-Loup Bonamy.
J'en profite pour faire une dédicace à quatre auditeurs fidèles. Alors Sanjo, un fidèle auditeur que j'ai croisé il y a quelques semaines dans le 5e arrondissement. Nathan, que j'ai croisé dans le train Paris-Dijon en rentrant à Besançon. Également mon homonyme, Jean-Loup, un autre Jean-Loup de Besançon.
Ah non, vous reproduisez.
Qui habite rue de Trait à Besançon, qui est vraiment un fidèle de l'émission. Et on porte le même prénom. Et il est vraiment très, très sympathique. Et je l'ai croisé. Il me dit, je m'appelle Jean-Loup aussi. Donc je salue ce fidèle auditeur. Et enfin également Lionel de Besançon, que j'ai croisé il y a quelques jours. Et là encore, un fidèle auditeur que on salue.
Bien. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à nous interpeller comme ça quand, de manière sympathique. Hein. Mmh. Voilà, pour discuter.
Mais refaites pas trop les débats. Parce
oui, surtout quand on est en train de choisir nos courgettes.
Surtout quand on est en train de faire nos courses. Voilà. Allez, on y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gervier.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde. Aujourd'hui sera la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. T'as de vu, quelqu'un qui s'en cœur. Fout un peu ouais. Quand même. Sandrine.
Je suis mitigée, mais on ne s'en fout pas non plus.
Jean.
Non pas.
Allez, on s'en fout.
Allez, on s'en fout. On va atteindre les 40 degrés aujourd'hui dans l'Hexagone, 38 à Paris, Auxerre également, 39 à Montélimar et à Vichy. Heureusement, un petit village gaulois résiste encore et toujours à la canicule. Il fera 27 degrés à Brest. Ces canicules, surtout, ça va commencer à coûter très cher. Selon Monique Barbu, elle parle de 10 à 15 milliards d'euros.
Pourquoi tu t'en fous pas, Joël?
Ah, moi, j'ai dit que je m'en fous pas juste pour dire que je m'en fous. Dans le sens où.
C'est un concept.
Ouais, c'est un concept.
C'est original, c'est une première.
Pour
c'est
pouvoir
devenu,
parler.
C'est ouais. Devenu ma normalité de transpirer dans mon appartement et de mal dormir la nuit.
Mais on maigrit comme ça. Quand
voilà,
on
exactement. De me balader torse nu. Donc, j'attends que ça passe. Voilà, que l'été se termine. Donc je le vois plus comme une canicule. Je crois que c'est notre quotidien. On ferait mieux d'ailleurs de le prendre comme ça. Voilà.
Tu as combien chez toi dans ton appartement?
J'ai pas regardé, mais je suis à plus 40. C'est pas
plus 40 dans l'appartement. Mais là, ce serait invivable.
Tu crois? Je sais plus.
Tu dois être à peut-être. Moi, j'avais 29 hier au soir.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus. C'est-à-dire quand je rentre dans l'appartement. Je me prends une vague de chaleur.
Ouais. J'ai l'impression que façon de nier le ressenti. Oui,
le 40 dans l'appartement, ça me paraît
beaucoup.
Non, mais
peut-être. Ressenti thermique parce que notre chroniqueuse.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais il veut des choses précises. Je vais pas mesurer. Mais c'est vraiment,
Tu t'en fous pas?
Je m'en fous pas parce que l'adaptation climatique, c'est pas devenu simplement un débat d'écolo, quoi. C'est aussi devenu un débat économique. La preuve en est, c'est que ça nous coûte 10 à 15 milliards d'euros. On parle juste de cette saison, de cette canicule. J'aimerais bien qu'on s'adapte un peu plus que les Français et que surtout moi, les gouvernements successifs, en espérant qu'ils aient une vraie vision pour 2027 là avec les candidats à la présidentielle, qu'on puisse venir à bout de toutes ces canicules et tout ça.
Compliqué, ouais. Monsieur Louis,
on enchaîne. Jean-Luc Mélenchon a affirmé vouloir foutre une partie de la dette au feu. On s'en fout, on s'en fout pas, Sandrine.
On s'en fout.
Joël.
On s'en fout pas.
Et Jean-Loup.
On s'en fout pas.
Ah, on écoute le chef de file de la France Insoumise.
La Banque Centrale Européenne a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. Eh bien, on lui propose de continuer à prêter directement aux nations et de geler à taux zéro la dette. Et ça consiste à prendre des titres de dette et vous les mettez au feu, il n'y en a plus. Ça n'a aucune espèce d'importance, cet argent n'existe pas.
Il a précisé dans la suite de ses propos qu'il exagérait à peine, mais en fait, c'est surtout qu'il parle pas de toute la dette, mais de la dette détenue par la Banque de France, qui représente à peu près 540 milliards. Comme nous le précisent nos confrères d'Atlantico, annuler cette dette, c'est possible, et sans trop de conséquences à l'instant T, mais c'est sur l'après que ça peut engendrer, ça enlève de la crédibilité, ça enlève de la confiance, et surtout, derrière, il voudrait redépenser, alors que si on fait ça, il faudrait plutôt assainir les dépenses.
Jean-Luc Bonamy.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon. La proposition de Jean-Luc Mélenchon, en fait, elle est mal retranscrite par les médias, parce que quand on lit ça, la première fois que j'ai lu ça, j'avais l'impression que Mélenchon proposait un défaut sur la dette, c'est-à-dire ne pas payer la dette. Or, c'est absolument pas ce qu'il propose. Il propose une méthode extrêmement banale qui est pratiquée par la Fed, par exemple, la Banque des États-Unis, par la Banque du Japon, par la Banque d'Angleterre, qui consiste juste, en fait, à monétiser les titres de dette détenus par la Banque centrale. Et donc les créanciers qui ont prêté à la France avec cette méthode seront totalement remboursés et rentreront totalement dans les frais, ils seront remboursés. C'est juste on va créer de la monnaie, ce qui fera baisser la valeur de la monnaie, mais c'est une technique de gestion.
Mais tu as un risque de ça, tu fais baisser la valeur de la monnaie, tu as un risque d'évaluation du coup.
Oui, tout à fait, mais alors
c'est le fameux titre de dire que quand tu dévalues, tu deviens compétitif.
Non mais oui, exactement, et ça c'est un risque sur la monnaie me paraît moins grave que le risque de surendettement dans lequel nous sommes, et je pense que de toute façon, vu les montants de dette, on en passera forcément par là. Donc la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui en fait, contrairement à ce que je croyais au début, n'est pas du tout un défaut sur la dette, mais une monétisation de la dette, c'est moi-même ce que je préconise depuis 15 ans, il n'y a rien d'absurde là-dessus. Alors dans la forme, dire, en fait, les gens qui ont prêté vont être payés, ils vont être remboursés. Donc cette proposition est juste du bon sens économique, mais c'est sûr qu'après, en effet, il faudra assainir tes finances publiques, ce que ne propose pas Jean-Luc Mélenchon, mais la proposition en elle-même n'a rien de délirant.
C'est là tout le problème, c'est-à-dire que déjà, en France, je pense qu'on a un déni total économique. On a un déni de notre situation quand tu vois comment on vote et comment on vote, notamment par rapport aux retraites. C'est-à-dire qu'on fait un déni complet de la situation économique. En plus, on a une pauvre culture économique, il faut le dire. Donc, Jean-Luc Mélenchon, sa solution qui est de dire je comprends le raisonnement, d'accord, mais ça s'appuie sur un État qui refuse de se réformer. Donc, si encore il proposait une réforme de l'État, des finances publiques, de la dépense publique, etc., c'est pas le cas. Donc, ça s'appuie sur un déni de la situation économique, ça s'appuie sur une pauvreté de la culture économique, plus un refus de se réformer. Donc, en fait,
il là, c'est un peu, moi j'ai l'impression qu'il me prend pour un enfant de 5 ans, c'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, tu sais, quand j'ai appris que la Banque de France imprimait les billets, je me souviens, j'avais demandé à une de mes maîtresses, pourquoi est-ce que il suffit pas d'imprimer, tu sais, des billets et comme ça
tout le monde en a,
ouais. Tu vois. Et ça c'est quand t'es enfant, tu penses qu'il suffit d'aller sur à l'imprimante et d'imprimer
ça
des billets
un
et
temps, on aura des
oui, oui, bah on a vu
simplement que les États-Unis que tu idolâtres, c'est exactement ce qu'ils font.
Oui,
le Japon, c'est exactement ce qu'il fait.
D'accord, sauf que les États-Unis restent une puissance, nous on
le Japon, c'est ce que fait le Japon.
On est dans un déclin, mais le Japon, il est en déclin aussi économique.
Mais il sera encore plus si vous avez... Et par ailleurs, les gens qui nous ont prêté souhaitent aussi qu'on fasse ça. C'est le meilleur moyen de les rembourser.
D'accord,
hein,
mais derrière, une fois que tu as fait ça, est-ce qu'on redevient une France compétitive? Est-ce qu'on redevient une France puissante?
Ça contribuera à la compétitivité puisque ça fera baisser la valeur de la monnaie. Donc tes exportations prendront aussi de la compétitivité.
Je préfère.
Sauf que pour moi, on n'exporte pas beaucoup. Quoi, si tu veux. C'est ce que dit Joël. Il faut qu'on retrouve.
Les importations coûteront plus cher.
Moi, je préfère un leader politique qui me propose une réforme de l'État, un leader politique qui me propose une nouvelle France avec un nouveau système, que quelqu'un qui me propose juste de dire OK, on va geler ça, on va faire zéro, on va effacer ça.
Et ben justement.
On pourrait faire les deux.
Merci Louis Gerbier de nous avoir fait écouter Jean-Luc Mélenchon, parce que ça va nous emmener à la deuxième heure des GG et à notre premier sujet de discussion qui va vous faire réagir au 32-16. Avoir un deuxième tour entre la France insoumise, en 2027, en mai prochain, enfin mai juin, avoir un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement National, Marine Le Pen, Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, c'est un risque mortel pour le pays. C'est ce que dit François Bayrou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est le scénario catastrophe, selon lui. 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes.